Bonjour, monsieur Merlet. Moi, je voudrais que vous fassiez des petites émissions sympathiques comme autrefois. Maintenant, il n'y a plus que des gens bougons qui appellent au téléphone. C'est affreux. On se rappelle des petits messages des stripteaseuses, des dernières stripteaseuses. C'était sympa. Il y a bien des villages où les gens sont heureux. Au revoir, monsieur Merlet. Je vous embrasse. Au revoir.
Bonjour, c'est Sylvain de la région parisienne. J'ai écouté l'émission cet après-midi et j'ai été choqué par un petit raccourci qui m'a déçu, en fait, de toi, Daniel. C'est d'entendre que, selon toi, à l'entrée du tourniquet chez Renault, les ouvriers votaient non et les cadres votaient oui. Bah, c'est un peu simple, en fait, tu vois. Je pense que, au contraire, tous les ingénieurs et cadres ne votent pas forcément oui. Et je le sais d'autant mieux que je vais voter non et que c'est mon cas d'être ingénieur et cadre. Donc, fais un peu attention à ce que tu dis et ne perds pas espoir en fait, parce que le non, il peut toucher toutes les classes, parce que toutes les classes sont menacées par l'Europe qu'on nous prépare. En fait, chez les ingénieurs et cadres, il y a aussi un problème dont on parle pas, mais qui commence à être grave, c'est les sociétés de prestataires. D'une part, c'est une gangrène pour les gens un peu diplômés, et en plus, la porte est ouverte à l'internationalisation, comme ils disent, qui est en fait une délocalisation, puisque chez les sociétés de prestataires, maintenant, ils sont victimes des enchères inversées. Alors, je ne sais pas si tu connais ce principe, c'est tout simplement une entreprise cliente, quelle que soit sa taille, qui offre aux entreprises prestataires un cahier des charges, une mission, comme on dit, et ils prennent le moins 10 ans. Et le moins 10 ans, il a tendance à plutôt habiter dans l'est de l'Europe. Et ça, ça commence à se généraliser. Et pour ceux qui arrivent encore à décrocher des contrats à l'ouest, c'est parce qu'en général, ils ont des filiales offshore, au Maghreb ou en Europe de l'Est, qui coûtent beaucoup moins cher et qui intéressent les clients. Donc tu vois, il y a aussi des raisons de voter non quand on est ingénieur et cadre. Allez, perds pas l'espoir, Daniel. Salut.
Par notre nom, nous ne voterons pas, comme Le Pen. Nous retrouvons le peuple que la gauche électoraliste avait abandonné. Quand Pascal Lamy prend la tête de l'OMC, quand le PS montre son adhésion au libéralisme avec tant d'agressivité contre nous, nous redonnons un peu d'espoir à l'électorat égaré. Ces hommes et ces femmes abandonnés par la gauche, ces têtes de pipe, comme disait Lamy, laissés pour compte depuis Mitterrand, par oubli des promesses, oubli de la solidarité, par ignorance de ce qu'est le peuple, ce quart monde qui ne peut se reconnaître que lors d'un coup de balai contre les élites. La gauche n'existait plus pour eux, alors qu'elle ne s'est pas remise en cause après le 21 avril, quand elle a eu cru être victorieuse aux dernières élections, alors qu'elle n'était que bénéficiaire des votes contre la droite. La réalité, c'est que le non est celui du peuple, dont une partie a voté extrême droite par écœurement, par défi, par revanche. À qui la faute? Je suis heureux qu'elle puisse se retrouver à gauche. Les pseudo-élites, les Langues, les DSK, les Guigou, les Aubry, etc. Vous avez construit Le Pen. Nous, nous la battons en redonnant de l'espoir. Mais la gauche s'en fout, la gauche classique, la gauche électoraliste, elle s'en fout des déshérités de la terre. Ce sont des salauds de pauvres, après tout. Salut, voilà, c'est un peu d'humeur. Salut Daniel, au revoir.
Eh bien, moi dimanche, je vote oui, parce que je ne vote pas contre un gouvernement français qui fait à peu près n'importe quoi. Je vote pour une Europe qui se construit depuis tant d'années. Et si on devait regarder la constitution française dans le détail, je pense que beaucoup d'entre nous s'apercevraient qu'elle ne nous convient pas, parce que il y a des articles qui ne sont pas forcément convenables. Mais le propos n'est pas là. Encore une fois, si on veut une Europe, il nous faut une constitution, et il ne faut pas une constitution à la carte. Donc moi, je vote oui. Didier Christophe.
Alors là, ce que je viens d'entendre, c'est extraordinaire. La conversation téléphonique, Monsieur Bolkestein, ça c'est merveilleux. Il faudrait que tout le monde entende ça. Merci, merci beaucoup. À bientôt.
J'appelle suite à l'émission du jeudi 26 mai. C'était juste pour vous féliciter pour cette imposture téléphonique. C'était vraiment grandiose. Je jubilais en l'écoutant de voir comment le mec est sauté à pieds joints dedans. Il n'a même pas hésité. Et de voir avec quel naturel il décrivait son système d'exploitation honteux. C'était magnifique. Félicitations, monsieur Ruffin. Au revoir.
J'ai été scandalisée par ce chef d'entreprise, pardon, ce voyou qui s'est fait piéger par votre équipe au téléphone. Dans une même entreprise en France, il est strictement interdit qu'un stagiaire effectue plus que l'horaire légal de travail, soit 35 heures, qu'il soit roumain ou autre. Pour un stagiaire, il y a obligation de monter une convention bien précise et cadrée. Celle-ci doit être signée par le stagiaire, la société qui l'emploie et l'organisme de formation qui le forme. C'est une obligation. Ce qui a été décrit là a un nom bien précis, soit travail au noir, soit pire, esclavage. J'espère qu'un inspecteur du travail aura écouté votre émission et qu'il y aura un contrôle. Ce voyou mérite la prison et du coup les premières pages des journaux avec son nom en grand pour servir d'exemple. Je suis scandalisée. Merci, c'était Christine Deschênes-Villers.
Oui, mais Christine, c'était pas le but, hein. C'était pas de dénoncer cet entrepreneur, c'était de montrer ce qu'est la délocalisation, ce qu'est le dumping social, ce que redoute, il semble, une majorité de Français dans ce débat. Un débat formidable, un débat que ce que nous sommes en train de vivre. Un débat où on aborde le fond, où on entrevoit le fond du problème, qui est le conflit entre, cette fois-ci, c'est le libéral et le social. Voilà, c'est le libéral contre le social ou le social contre le libéral. Autrefois, c'était le travail contre le capital. Voilà, et c'est la suite au fond de ce conflit, de cette confrontation historique qui a émergé, qui émerge à nouveau ces jours-ci. C'est le vieux conflit entre les profiteurs et les travailleurs. Alors les sondages indiquent que les profiteurs vont peut-être passer un mauvais week-end, mais c'est pas si sûr si l'on écoute certaines radios. Écoutez cette petite perle.
La bourse. Il faut savoir que le pire ennemi des profits, c'est le plein emploi. Parce que le pire ennemi des profits, c'est le plein emploi. Or, on est loin du plein emploi.
François Chevalier, merci. Je rappelle que vous êtes stratégiste chez VP Finance.
Alors, vous venez d'entendre ça. Le pire ennemi des profits, c'est le plein emploi. Je répète, le pire ennemi des profits, c'est le plein emploi. Et vous vous dites, bon, d'accord, c'est là-bas si j'y suis, c'est un montage, ils bricolent des mots, etc. Et puis voilà. Mais c'est quand même une petite phrase extraordinaire. C'est une petite puce à l'oreille. C'était sur France Info, c'était aujourd'hui à midi 59. Et je vous propose, pour vous montrer que ce n'a rien d'une blague ou d'un montage excessif, je vous propose d'entendre en entier cette petite chronique dont il ressort qu'en effet, le pire ennemi des profits, c'est le plein emploi.
La Bourse, Antoine Verlin.
On retrouve Cédric Decoeur et son invité.
François Chevalier, vous êtes stratégiste chez VP Finance. Il y a un thème aujourd'hui que les marchés regardent vraiment, c'est les profits des entreprises. Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui ?
Bon, ce que craignent évidemment les investisseurs actuellement, c'est un ralentissement de la croissance des profits lié au ralentissement économique. Ce qui le valide, c'est la dégradation du climat des affaires et c'est aussi le fait que le taux de profit a rejoint ses sommets de 1997. Alors c'est vrai que lorsqu'on est au plafond, on ne peut plus que descendre ou rester au plafond.
C'est-à-dire que les entreprises vont cesser de gagner de l'argent ?
Non, parce que pour qu'elles perdent de l'argent, il faudrait que le ralentissement dégénère en récession. Or, on est loin de la récession parce que l'inflation est maîtrisée, les politiques monétaires sont généreuses et que les entreprises ont gagné de l'argent et qu'elles peuvent embaucher et investir. Et puis, le deuxième point concernant le taux de profit, il faut savoir que le pire ennemi des profits, c'est le plein emploi. Le pire ennemi des profits, c'est le plein emploi. Parce que lorsqu'on est au plein emploi, il y a des augmentations de salaire qui dépassent les gains de productivité, que les banques centrales sont tentées de remonter leur taux d'intérêt et que ça va au détriment de la rémunération du capital. Or, on est loin du plein emploi.
François Chevalier, merci. Je rappelle que vous êtes stratégiste chez VP Finance.
Voilà, les choses sont claires. Pas trop d'inquiétude. Donc, si vous faites partie du camp des profiteurs aujourd'hui, là-bas, si j'y suis, va continuer sa balade dans la France profonde. Un petit coup du côté de Maubeuge. Et puis, on ira avec des jeunes, les jeunes, à Clichy-sous-Bois, dans le 9-3, pour voir un petit peu comment, dans une classe de terminale, on a discuté de tout ça à la veille de voter pour la première fois. C'est dans là-bas si j'y suis, c'est dans un instant, après un message un peu particulier.
Qui cite encore le général de Gaulle, à part Henri Tizot, son imitateur, qui lui demeurera fidèle en votant non dimanche. Voici ce que disait de Gaulle à Alain Perfit, à la page 366 du livre « C'était de Gaulle ».« Notre politique perfide, je vous demande de bien le faire ressortir, c'est de réaliser l'union de l'Europe. Mais quelle Europe, si elle n'est pas l'Europe des peuples, si elle est confiée à quelque organisme technocratique plus ou moins intégré, elle sera une histoire pour professionnels, limitée et sans avenir. L'Europe dite intégrée se dissoudrait comme du sucre dans le café. C'est en réalité l'Europe des Américains, l'Europe des multinationales. Une Europe qui, dans son économie et davantage encore, dans sa défense et dans sa politique, serait placée sous une inexorable hégémonie américaine. Une Europe où chaque pays européen, à commencer par le nôtre, perdrait son âme. Comment voulez-vous qu'on aille toujours plus loin vers l'enrichissement des riches et l'appauvrissement des pauvres? Et qui est mieux placé que la France pour faire entendre la voix de ceux qui n'ont pas de voix? Les peuples, ça existe et ça résiste. Ce sont les gouvernements qui n'existent pas quand ils sont à la merci de leur parti, de leur comité et de leur parlement. Je veux que l'Europe soit européenne, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas américaine. Nicolas Sarkozy a dit que la France n'est jamais aussi grande que quand elle montre le chemin. Lui, c'est en disant oui qu'il pense grandir notre pays. Moi, Henri Tizot, c'est en disant merde, qui est le mot le plus français du monde. Merci à Daniel Mermet de me donner la parole et de la diffuser.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis avec Olivia Gesbert et François Ruffin, le pire ennemi des profits, c'est le plein emploi.
Flight number 2, arriving from New York.
Votre nom, ça veut dire quoi? Non.
Oui.
Non.
Et si je dis oui, tout le monde avait dit non.
Oui.
C'est pas parce que le non montait dans les sondages.
Si.
C'est pas le paradis si vous votez oui.
Non, non.
Mais si vous votez non, ils ont voté non partout, tout le temps.
On va leur dire, ah ben non, on est...
Non, excusez-moi.
Non.
Non.
Non, non.
Si tout le monde avait voté non.
Oh oui.
Et non, pas du tout.
Mais non.
Je veux dire, le monde est libéral.
Oui.
L'Europe est libérale.
Oui.
Et la France est en train
de... Insurrection démocratique. Ce sera peut-être en effet le titre de ce que nous vivons en ce moment, un de ces moments rares où soudain le public monte sur la scène du théâtre de l'histoire et bouscule les cabotins, toujours les mêmes, qui jouent toujours la même pièce, issus du même répertoire, l'impuissance, l'inéluctable, la consommation des ménages, l'inégalité, la précarité, et sachant que le pire ennemi des profits, c'est le plein emploi. Les mêmes tirades, les mêmes chroniques, les mêmes penseurs, arrogants et sûrs d'eux-mêmes, et voici que pour un instant, pour une parenthèse, pour une courte récré, eh bien, en effet, le public monte sur la scène et essaye de se faire entendre, et essaye de comprendre et de se faire comprendre, et donne tort pour un instant, souhaitons qu'il dure, bien évidemment, à cette féroce et farouche politique de dépolitisation. Aujourd'hui, donc, on continue la balade, je le disais, dans la France profonde, et on va commencer par ce lycée, un lycée du 9-3 à Clichy-sous-Bois, où, avec leurs profs, ces élèves de terminale qui vont voter, certains, certaines, ce dimanche, font un peu le bilan de ce qu'ils et qu'elles ont appris et compris de ces semaines de chaud débat.
Cédric.
Tuline.
Faïza.
Chamon.
Sabrina.
Shamira.
Lindsay.
Rina.
Sana.
Laïla.
Là, qui va voter là? Il y en a beaucoup qui ont levé la main tout à l'heure là. Il y en a 5 là.
On est combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
On a pas l'âge.
Alors justement, qui a le droit de vote d'abord? Levez la main. 5, 6, 7. Il y en a 7 qui ont le droit de vote.
Sur le texte là, tu disais qu'il était illisible. Qui a cherché à le lire ici?
Tiens. La ouais. Première page, j'ai abandonné.
Pourquoi?
Parce que c'est ils emploient des termes qui on se demande pourquoi. Ouais. Alors qu'on sait très bien qu'il y a des mots beaucoup plus simples et qu'ils s'adressent à une population assez jeune et le vote il est dirigé et il n'est pas vraiment libre comme ce qu'on pourrait le croire. Et vous voyez le martèlement médiatique à la télé ou même quand le discours du président, quand il dit que le fait que la France vote non, elle porterait le mauvais rôle ou ça serait le point noir ou la tache noire en gros. Et puis la culpabilisation. Et vous vous dites, mais est-ce qu'on est vraiment en démocratie ou pourquoi mettre à l'avant le oui et non pas le non? Pourquoi le non, il est aussi...
Étouffé, la voilà, par exemple, vous n'avez pas pu venir dans notre lycée, pourquoi? Pourquoi la petite vie pour le oui, elle a un mauvais visage? Non, elle a une tête
de malade. C'est-à-dire, c'est quoi pour toi l'Europe?
Bah, j'en sais rien, c'est justement ça que je me pose comme question.
C'est un système économique.
Voilà, c'est juste c'est un système économique. Mais on ne sait pas vraiment concrètement c'est quoi.
Être européenne, on pourrait dire, c'est partager les mêmes valeurs économiques. Hein, parce que culturellement, on ne sait pas ce que ça veut dire. Mais même identité française, on ne sait pas ce que
ça veut dire. Avec un pays, elle n'a pas eu d'histoire, elle n'a pas eu de religion, il n'y a pas une religion.
C'est pas quelque chose de commun.
Voilà, l'Europe, c'est quelque chose qui a été construit. C'est à moi vécu, si on veut dire ça.
Mon essence est déjà s'y trouver dans cette identité européenne. Parce que c'est pas la constitution qui va nous l'apporter plus que les autres traités. Parce que, après tout, c'est seulement un traité.
Et l'Europe de l'Est, là, avec l'élargissement qui a eu lieu, vous vous sentez proche d'eux ou pas du tout?
Si par exemple les Roumains sont payés 104 euros par mois et qu'on ne veut pas fausser la concurrence entre les travailleurs français et les travailleurs roumains, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir relever le salaire des travailleurs roumains ou baisser celui des Français pour...
Non, il faudrait relever le salaire des Roumains.
Non, la somme, il faut que chacun
vienne relever aussi à un niveau de vie européen. Elle est là, l'entente européenne. Simplement, dans cette mesure-là, le chômage ne diminuera jamais en France. Parce que les Français, ils vont pas aller dans les pays de l'Est pour travailler là-bas.
Ouais. Voilà, on ne peut pas. Le chômage, il sera déplacé parce que là, ça sera. On a pris l'exemple des Roumains, mais les Roumains, ils auront du boulot, mais les travailleurs français qui ont une qualification et leur salaire qui demande un peu plus d'argent, eh ben, ils vont perdre leur emploi. Non mais par exemple moi si je dirigeais quelque chose, si je sais que je peux produire la même chose à des coûts moins élevés, bah franchement je saisirais l'occasion.
Bah si un seuil européen, comme européen. Ça qu'on est
bah, oui.
Le même niveau de vie.
Oui. Comme ça on a toutes les chances.
Mais il n'y aura pas.
Il n'y aura pas ça. Non, voilà, c'est ça. Bah voilà, mais entre ce qu'on voudrait et ce qu'on a vraiment, bah.
Ouais, bah ce serait trop beau. Enfin. Tout le monde, même tous un bon salaire, tout ça. On a dit qu'il y avait forcément des gagnants et des perdants.
Bon, on va voter quoi alors? On va voter non parce qu'on dit toujours non.
Alors, mon avenir, c'est l'Europe?
Oui, ton avenir, c'est l'Europe. Mais on te l'a si peu dit et on s'est tellement habitué. On voit pas à quel point l'Europe est une invention incroyable.
Voilà, ça c'était un message du comité culturel du Parti Socialiste, là, la petite voix de cet enfant avec ce comédien qui fait son papa. Puis auparavant, il n'y a pas une chose qui vous a étonné dans ce qu'on a entendu dans les commentaires de ces étudiants? C'est dans le 9-3 qu'on était, le 9-3 à Clichy-sous-Bois. Il y a quelque chose qui colle pas dans ce qu'on a entendu. D'habitude, le 9-3, on y va pour des histoires d'insécurité, on y va pour des histoires de voile, on y va pour des histoires de ziva et des histoires de conflits ethniques. Eh ben non, voilà, c'est le sort a été le charme et le grand intérêt de ce débat autour de cette constitution, de ce projet de constitution, c'est qu'on a abordé les vrais débats de fond, c'est-à-dire les débats sociaux, les débats qui regardent la société. Et ça a le mérite de montrer que d'ordinaire, les débats auxquels nous sommes convoqués, eh bien, seraient peut-être, il faut parler au conditionnel, des débats qui seraient un peu des leurres et des diversions par rapport à l'essentiel. Alors l'essentiel, on y va avec François Ruffin. On va dans le Nord, c'est le penchant très prononcé de François Ruffin, c'est le Nord. Là, en l'occurrence, c'est Maubeuge. C'est à Poix du Nord, à côté de Maubeuge, et c'est une entreprise qui s'appelle ECCE.
Oui. Merci monsieur.
Alors, vous êtes en train de déjeuner donc sur le muret devant l'entreprise ECCE. Il y a 2 ans, il y a eu un premier plan de licenciement. Comment ça s'est passé en fait?
On a perdu Yves Saint Laurent. On a perdu un gros client avec Yves Saint Laurent.
Et vous savez pourquoi Yves Saint Laurent est parti? Ils ont expliqué pourquoi il quittait ECCE?
C'est par rapport à Gucci. Gucci a repris totalement sa griffe pour la faire fabriquer en Italie.
Et pourquoi en Italie?
Bon, pour lui, ça lui coûte sûrement encore moins cher. Il y a quand même eu 140 licenciements à cause de ça.
Parce que là, il y a un nouveau risque pour l'entreprise, en fait, depuis quelques mois. C'est quasiment comme si on connaissait déjà la date de fermeture de l'usine.
C'est-à-dire que Kenzo arrête sa licence fin décembre 2007 en France. Et sans savoir s'il ne va pas arrêter avant, parce que nous, la direction générale nous a bien dit aussi que si la situation n'était pas redressée en 2005, ce serait peut-être la fermeture de la boîte avant. Et moi, j'ai 46 ans, et j'ai une petite fille encore en bas âge. Je suis toute seule aussi, et je ne sais pas qu'est-ce que je vais pouvoir faire. Parce que c'est pas 46 ans ou 48 ans, si ça dure encore 2 ans, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire?
Ça fait combien de temps que vous travaillez ici?
Depuis 75, c'est-à-dire 30 ans. J'ai 30 ans d'ancienneté et je gagne toujours 980 € sans prime d'ancienneté, sans rien du tout. Je trouve que c'est une misère par rapport à un costume qu'on vend dans les magasins de vente, quoi. Un costume, il est vendu entre 4500 francs et 6000 francs. C'est presque mon salaire.
Et pourtant, votre salaire, c'est encore trop.
Mon salaire, c'est encore trop par rapport à ce qui est fabriqué à l'étranger. À l'étranger, on nous dit toujours qu'un costume, il vaut 300 francs et ici, il vaut, à Poids du Nord, il vaut 1000 francs.
Est-ce que vous avez porté déjà une fois dans votre vie du Kenzo ou du Yves Saint-Laurent?
Pas du tout. Premièrement, c'est trop cher pour notre petit salaire. Puis bon, c'est un peu sophistiqué aussi, mais déjà, le prix, c'est pas possible. Parce que travailler au bout de 30 ans et puis être jeté comme ça à la rue, c'est pas admissible.
Vous faisiez partie des personnes qui ont perdu leur emploi il y a 2 ans?
Oui, quand on a été licencié ici, pire que des chiens. Alors on a passé au bureau, tout le monde nous regardait, on passait chacun son tour, et puis celui qui pleurait, ben, on savait qu'il était licencié. Et on nous annonçait ça de but en blanc.
De quand date ce reportage? D'il y a 5 ans, d'il y a 10 ans? Non, c'était il y a 3 jours. Les mêmes voix, toujours les mêmes voix, les mêmes humiliations, le même cynisme, la même fatalité et la même indifférence. Mais quel rapport entre cette situation, la situation de ces ouvrières, de cette entreprise qui délocalise et ce traité de constitution européenne? Et bien voilà l'analyse de Frédéric Lordon, économiste et chercheur au CNRS, interrogé par François Ruffin.
Il existe pour vous un lien entre la manière dont se construit l'Europe à travers ce traité constitutionnel, à travers son histoire depuis 2 décennies, et les enjeux autour de la mondialisation?
Je dirais que c'est presque un lien logique, c'est presque un lien de synonymie. Bon, les partisans du oui nous disent, mais vous n'avez rien compris, l'Europe nous protège. Elle ne cesse de nous protéger, elle va nous protéger davantage encore. Mais c'est très difficile de soutenir une thèse pareille tout de même. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est la mondialisation, hein? Alors, il y a 2 manières de définir la mondialisation, dont une est pertinente pour notre débat. Alors, la première n'est pas inintéressante, je la cite quand même. La mondialisation, de ce premier point de vue, c'est la restructuration des espaces pertinents d'exercice des politiques publiques, d'exercice des politiques de régulation. Un exemple, pour lutter contre les dérèglements environnementaux de la planète, pour mettre en œuvre des politiques anti-grande criminalité ou anti-terrorisme, pour lutter contre l'instabilité financière et monétaire, qui sont tous des problèmes débordant notoirement les frontières nationales. Ce ne sont pas des gouvernements d'États-nations qui peuvent s'en charger. Je veux dire, les politiques publiques doivent être déployées à partir d'un nouvel espace pertinent qui est nécessairement un espace régional, je veux dire régional au sens agglomération de pays comme l'Europe ou au niveau international. Voilà, ça c'est la première définition de la mondialisation.
Donc ça, cette Europe, cette construction de cette Europe-là, de cette mondialisation, vous paraît nécessaire?
Alors, de ce point de vue, le bien fondé de la construction européenne, ce bien fondé est total. Il me semble absolument pas contestable. Le repli sur les frontières de l'État-nation me semble une position indéfendable maintenant que les forces du capitalisme, de la criminalité, de la dévastation environnementale, etc., ont débordé les frontières. Voilà. Ce qui me permet de dire au passage que récuser comme anti-européen les partisans du non, et spécialement les partisans du non à gauche, est une imputation qui est dépourvu du moindre fondement. Moi, je suis le premier à reconnaître le bien fondé d'une construction européenne en toute généralité. Alors, la question...
Mais alors, qu'est-ce qui vous déplaît dans cette Europe-là, dans cette mondialisation-là?
Eh ben, la question, c'est que lorsqu'on a dit « faisons l'Europe », on n'a rien dit ou presque. La vraie question, c'est « quelle Europe faisons-nous ? » Alors c'est là qu'on en arrive à la deuxième définition possible de la mondialisation, et c'est là que les choses vont commencer à se gâter. Parce que la deuxième définition possible de la mondialisation, c'est la définition sous l'espèce d'un projet général. Quel est le projet général de la mondialisation? Eh bien c'est tout simplement d'organiser la libre circulation des personnes, des marchandises, des services et des capitaux. Alors ça, normalement, ça devrait vous rappeler quelque chose. Parce que c'est exactement l'intention que se donne la construction européenne elle-même. Je cite à nouveau l'un de ses articles les plus fondamentaux, l'article 1.4. « La libre circulation des personnes, des services, des marchandises et des capitaux, ainsi que la liberté d'établissement, sont garanties par l'Union. » Ce qui signifie que l'un des tout premiers articles du traité constitutionnel ne fait pas autre chose que répéter textuellement le projet général de la mondialisation. Il y a donc identité verbal, logique et politique du projet de la mondialisation et de l'orientation actuelle de la construction européenne. C'est cette identité, évidemment, qu'il faut briser. Alors, cette assimilation ou cette correspondance quasi parfaite entre les tendances de la mondialisation et celles de la construction européenne, mais alors on peut les lire au travers de toute une série d'articles en détail. Hein.
Par exemple,
mon préféré, mon petit chouchou, c'est quand même l'article 3.131, qui alors là va vous donner une idée alors, de l'importance véritable qui est accordée au principe de la déréglementation concurrentielle.
Alors, que raconte cet article 3.131 ?
Il est trop beau, je le lis, il est un peu long, pardonnez-moi, mais il faut vraiment l'avoir bien en tête. Les États membres se consultent en vue de prendre en commun les dispositions nécessaires pour éviter que le fonctionnement du marché intérieur ne soit affecté par les mesures qu'un État membre peut être appelé à prendre en cas de trouble intérieur grave affectant l'ordre public, en cas de guerre ou de tension internationale grave. Que veut dire ceci en clair? Ça veut dire que même si on est dans la guerre atomique, la guerre civile, l'insurrection violente ou la crise sociale sanglante, le fonctionnement du marché intérieur doit être sauvegardé. Ça donne une idée assez précise de ce qu'est la hiérarchie des valeurs et des principes dans ce texte européen. Moi, je trouve que c'est assez édifiant, tout de même.
Vous connaissez le groupe LVMH?
Oui, bien sûr. Puisqu'on travaille pour eux, on travaille pour Kenzo.
Vous connaissez le patron de LVMH?
Oui, Bernard Arnault.
Vous savez quelle est sa fortune à Bernard Arnault?
Oh, pas du tout.
Vous allez nous éclairer.
3 millions d'euros et c'est la deuxième grande fortune de France.
3 millions d'euros de salaire, c'est exact. Mais alors, il y a 15 millions d'euros de stock options en plus.
Ah, j'ai oublié les stocks options. C'est vrai que nous, on n'en a pas. Hein. À côté de 1000 euros par mois à peine pour une fille en production. Et c'est pour ça aujourd'hui que nous dirons non à la Constitution européenne.
Ça, c'était son salaire. Maintenant, votre patrimoine. Vous possédez votre maison?
Non. Justement, j'étais séparée. J'étais obligée de revendre ma maison. Et j'ai eu des difficultés parce que ma maison n'était pas encore fini de payer. Donc, j'étais obligée de payer deux loyers.
Donc vous possédez pas votre maison, vous avez quoi comme patrimoine alors? Une voiture?
Je suis obligée d'avoir un moyen de locomotion parce que le bus il passe pas.
Et c'est quoi votre voiture alors?
Ici c'est une Renault 21 ancienne.
Donc comme patrimoine vous avez une Renault 21 qui n'est plus cotée à l'Argus, c'est ça?
Non, pas du tout.
Vous avez quoi comme patrimoine?
Moi j'ai ma maison, mais bon, enfin c'est une petite maison que j'ai achetée pas très cher, qu'on a refait les travaux nous-mêmes, donc il y a plus de 16 ans.
Et même les travaux de plomberie?
Ça ouais, franchement. On a fait du système des merdes, quoi. On rend des services en famille, quoi.
Très bien, donc vous avez la famille qui s'y connaît en plomberie?
Bah, en tout. Ce qu'ils savent pas, ils apprennent.
Les amis, envoie-les à monsieur Bockenstein parce que lui, il ne trouve pas de plombier dans la baignoire. Hein. Il a dit qu'il ferait venir des plombiers polonais alors qu'on a tout ce qu'il faut dans le Nord. Hein. Il n'y a qu'à venir et puis nous en parler.
Donc vous avez votre petite maison. Et vous avez quoi comme patrimoine?
Une belle voiture qui a 14 ans et 237 000 km.
Et donc, lui, la fortune de Bernard Arnault, combien vous pensez vous l'évaluer?
Est-ce que tout est bien déclaré d'abord?
Essayez. C'est un premier chiffre, lancez-vous, n'ayez pas peur.
Plusieurs appartements, un bateau.
Allez, lancez un chiffre.
100 millions d'euros.
100 millions d'euros pour Madame Bourlard. Vous dites combien, Madame Smaga?
Oh non, moi je dirais ça, j'irais plutôt par milliard, pas par million.
On est en euros. Donc c'est des millions d'euros, des milliards d'euros. Bah, des milliards
d'euros. C'est 15 milliards d'euros. Non, vous alliez dire combien ?
Un milliard, on était encore loin du compte.
On en ferait des choses, hein.
On va pouvoir en faire des années.
On pourrait profiter de notre retraite, peut-être.
On pourrait peut-être donner une journée de la du Pentecôte pour nos aînés, tiens.
On peut travailler pendant cette vie, on n'aura jamais ce qu'il y a là, hein, lui.
Mais il faut se dire aussi que si jamais on est licencié quand même, parce que de toute façon on y sera quand même, on ne cessera pas faire, on fera du bruit quand même. Hein. Quitte à aller sur Kenzo, quitte à faire quoi que ce soit, mais on partira pas sans rien pour même les filles qui vont rester soi-disant, qui restera un tout petit atelier pour faire voir que c'est du made in France. Mais on va faire du bouquin, on ne cessera pas faire.
Et vous savez où est-ce que ça va partir, Kenzo ?
Oui. Pologne, ouais, en Pologne. Beaucoup, on entend parler de ça. Mais bon, on nous ramène des vêtements, hein, que c'est pas bien fait en Pologne. Hein. Et on les répare.
En Pologne, Slovénie,
Hongrie.
La Hongrie. Et ça, c'est les pays de l'Est, hein.
Oh oui. Et non, pas du tout.
Mais non. Mais...
Je veux dire, le monde est libéral.
Oui.
L'Europe est libérale.
Oui.
Et la France est en train de devenir, de faire une crise d'antilibéralisme primaire.
Oui.
Il faut dire non à une constitution trop libérale.
Oui. Nous avons dit non.
Jean-Pascoy, bonjour.
Bonjour.
Vous avez remarqué une chose quand même au cours de cette campagne, c'est la discrétion du baron Sellière. Hein, et d'autres personnages qui parlent des guignolesques, des spectres guignolesques, eh bien ils ont disparu. Je pense qu'on a évité leur capacité à susciter de la répulsion, je suppose. Malgré tout, quand même, les ficelles étaient vraiment trop grosses. Ou bien alors, les yeux étaient très fins et les oreilles très fines pour débusquer la manipulation. Mais revenons à l'Europe. Et demandons, interrogeons notre économiste et chercheur au CNRS, Frédéric Lordon, car évidemment, l'Europe ne fait pas que des malheureux, alors à qui profite l'Europe ?
À qui profite cette Europe ?
Ben, aux mêmes. C'est-à-dire à ceux qui ont déjà si bien tiré leur épingle du jeu de la libéralisation et de la mondialisation, qui est un jeu que la construction européenne n'a fait que diffuser, que propager, que relayer. Alors, il faut... Là, je voudrais repartir d'un exemple délibérément choquant. Alors, c'est... Mais finalement, on vient d'en parler, hein, c'est Bernard Arnault. Moi, j'avais en tête Daniel Bernard, le PDG de Carrefour, qui est parti avec la petite tirelire que l'on sait. Pour un partisan du oui qui passerait par là et qui dirait, vous voyez avec quoi les partisans du non font campagne. C'est lamentable. Ils mélangent tout. Daniel Bernard et le traité constitutionnel européen.
C'est vrai qu'on voit pas trop le lien, a priori.
Ils sont prêts à n'importe quoi. Eh bien, moi, en prenant cet exemple, je vais délibérément à la rencontre de cette objection pour la prendre de face. Pourquoi ? Eh bien, parce que, quelque étranger qu'ils puissent paraître l'un à l'autre, Daniel Bernard et Bernard Arnault d'un côté et le traité constitutionnel européen de l'autre, nous parlent en fait du même monde. Et j'en reviens toujours là. D'abord, moi, je trouve formidable que tout le monde se scandalise des émoluments de Daniel Bernard ou de la fortune de Bernard Arnault. Et la gauche oui-ouiste n'est pas la dernière à se déclarer profondément choquée, révulsée, etc. Mais personne ne s'interroge jamais sur les causes. Personne ne pose la question de savoir qu'est-ce qui a rendu possible ces excès invraisemblables? Et la réponse est toujours la même. Ce sont les nouvelles structures du capitalisme déréglementé et financiarisé qui ont produit ce magnifique résultat. Parce que lorsque sont mises en place les structures de concurrence généralisée et de libéralisation financière, eh bien, le rapport de force entre le capital et le travail s'en trouve déséquilibré à un point tel que le capital peut faire valider presque toutes ses exigences. Et en particulier, vous le savez bien, le capital noue avec le salariat et même les pouvoirs publics des rapports de chantage. Des rapports de chantage implicites ou même explicites d'ailleurs. C'est bien ce qui s'est passé dans le cas allemand, hein, par exemple. Les patrons ont obtenu de Gerhard Schröder toute une série de réformes structurelles, entre guillemets, celles-là même qui vont toujours dans le même sens, sous la menace ouverte des délocalisations. Bon, eh bien, les rémunérations scandaleuses de nos brillants chefs d'entreprise est permise par le même genre de mécanisme, par le même genre de structure, c'est-à-dire la présence de la finance, qui va permettre aux capitaux de se déplacer, qui font que les chefs d'entreprise pourront imposer leurs réquisites, faute de quoi ils menaceront de déplacer leurs entreprises, leurs capitaux, etc.
Mais alors quel est le lien avec le traité constitutionnel ?
Et le traité constitutionnel, une fois de plus, c'est lui qui sanctionne, qui consacre l'existence de ces grandes structures qui produisent toujours ces effets d'inégalité et de précarisation pour les uns, ces effets de salaire et de fortune mirobolants pour les autres. Voilà.
Et ces grandes causes, ces grandes structures, c'est quoi ?
Ces grandes structures, c'est la libéralisation des marchés financiers, c'est la concurrence générale des marchés de biens et de services. On pourrait ajouter dans le cas de l'Europe la structure de la monnaie unique. Ce sont ces structures-là qui ont permis de faire basculer totalement le rapport de force capital-travail. Une fois que vous avez installé la concurrence générale de tous les marchés, une fois que vous avez installé la libéralisation financière, mais les jeux sont quasiment faits. Donc c'est pas la peine de sauter sur sa chaise et de faire des moulinets avec ses petits bras musclés en appelant à la reconstruction du rapport de force. Il est déterminé à 95%. Alors l'agitation. Alors,
il est déterminé par la concurrence libre et non faussée entre les États et entre les travailleurs.
Oui.
Et par la libre circulation des biens, des personnes et des capitaux.
Oui. Et une fois qu'on a dit ça, il vous reste 5% pour 5% résiduel pour avoir l'impression de faire quelque chose pour lutter contre tous ces éléments, alors que c'est un combat désespéré.
Je pense avoir vu tout ce qu'un homme peut voir. Des populations jetées sur les routes, des enfants jetés dans la guerre, des vainqueurs et des vaincus finalement réconciliés dans les cimetières, que leur importance a élevé au rang de curiosité touristique. La paix revenue, j'ai visité les mines. J'ai vu la police charger des grévistes, je l'ai vu aussi charger des chômeurs. J'ai vu la richesse de certaines contrées et l'incroyable pauvreté de certaines autres. Et bien, durant toutes ces années, je n'ai jamais cessé de penser à l'Europe. Monsieur Chalamont, lui, a passé une partie de sa vie dans une banque, à y penser aussi. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe. Et ce projet que d'avance, vous en dénoncez le principe. La constitution de trusts horizontaux et verticaux et de groupes de pression qui maintiendront sous leur contrôle non seulement les produits du travail, mais les travailleurs eux-mêmes. On ne vous demandera plus, messieurs, de soutenir un ministère, mais d'appuyer un gigantesque conseil d'administration. Si cette assemblée avait conscience de son rôle, elle repousserait cette Europe des maîtres de forge et des compagnies pétrolières. Et maintenant, permettez-moi de conclure. Vous allez faire avec les amis de Monsieur Chalamont l'Europe de la fortune contre celle du travail, l'Europe de l'industrie lourde contre celle de la paix. Eh bien, cette Europe-là, vous la ferez sans moi, je vous laisse.
Europe des peuples, Europe des banques, le conflit ne date pas d'hier. C'était un extrait d'un film de 1961, un film d'Henri Verneuil. Évidemment, vous avez reconnu dans le rôle du président Jean Gabin. Donc on continue notre balade, et cette fois il y en a marre hein, d'aller toujours du côté des pauvres. Là on va du côté des gagnants, là où s'habillent les gagnants. Et il faut tendre l'oreille pour reconnaître notre gagnant.
Je vous dis là, je ne sais pas si je vais acheter dès maintenant, parce que je ne sais pas quelle somme ça représente.
Un costume comme ça, il faut compter 665 euros, ça va.
Ouais, ça va, ouais. Pourtant, oui, il paraît un peu serré.
Il y aura les chaussures, changer.
Voilà. Oui, les chaussures, il faut les changer aussi.
Ouais, tout a changé.
Là, c'est ça le problème. Voilà.
C'est ce que je disais. Le monsieur disait qu'il y avait paiement en trois fois, en fait.
Ah, paiement en trois fois, oui, ça va être nécessaire, je crois. J'aimerais bien savoir, honnêtement, à peu près combien ça s'élève.
Là, vous avez un costume à 655 euros, c'est moins cher.
Ouais.
En plus, une chemise à 100 euros, ça fait 755. Si vous prenez des chaussures à peu près 200 euros, vous comptez 900 euros.
Hein. 900 euros, je m'en sors pour 900
oui,
euros.
Pour 900 euros.
D'accord.
Bah ouais, c'est une image qu'on doit. C'est très très important.
Ah, oui.
En tant que directeur adjoint, vous avez.
Ouais, voilà, c'est ça.
Ça vraiment, il y a une
jeune,
image. Surtout en plus sur Paris, on joue beaucoup sur l'image, même si votre travail, vous êtes compétent, mais il y a l'image aussi qui est très importante.
Et puis en plus, vous savez, quand on vient de Picardie, tout
voilà,
suite, c'est.
Voilà, déjà, exactement, tout à fait.
C'est comme si la boue, elle continue de vous coller au.
C'est triste.
Pas les bottes, mais...
Oui, mais bon, c'est comme ça, c'est vrai. Et puis là, vous avez une image aussi à transporter, que l'image de l'entreprise.
Et puis, directeur adjoint, oui, il y a un minimum quand même. Mmh,
bien sûr. Ouais, déjà, ça fait 2-3 mois que je suis là. Il y a plusieurs fois des remarques.
Ah oui, non, mais là, il faut faire attention.
Monsieur Daniel, il rigole pas. C'est pas un patron qui a orienté.
Mais là, vous avez de quoi pour demain, tout ça et tout? Non, vous y allez encore comme ça?
Bah demain, je pense que je vais gérer ça comme ça. Et puis, je pense que vous avez l'impression que là, je suis un look de...
Bah, ça fait pas... c'est vrai que pour une boîte... Non, franchement, ça ne fait pas du tout. Hein. Mmh. Et là, déjà, au moins, ça ferait plaisir à votre directeur de voir que, voilà, c'est pas rentré dans l'oreille d'un sourd.
Ouais, non, mais ça, je lui ai dit. Je lui ai dit, j'y vais, je passe ce soir après le boulot. Et vous savez aussi, c'est bon, quand on veut acheter une voiture, on regarde un peu l'Argus.
Oui, mais
bon,
là, c'est pas une voiture.
Voilà, 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 voilà. Le directeur adjoint de la base du G8 qui s'achète un Costa. 900 euros quand même, hein, pour se refaire à neuf, mais c'est indispensable, c'est un investissement quand on est un picard. Alors on retourne à l'entreprise, dans l'entreprise qui fabrique ces costumes, où les ouvrières fabriquent ces costumes pour Kenzo, pour Yves Saint Laurent, et qui risque de ne les plus fabriquer du tout.
Qu'est-ce que vous dites, madame?
De toute façon, c'est non. Pour le 29 mai, c'est non.
Si les Français ne comprennent pas, eh ben, ils sont bêtes.
Pourquoi vous dites ça?
Dans la Constitution, ben parce que...
Dans la Constitution, on a un droit au travail. Mais le droit au travail où? En France, on nous dira demain c'est la Roumanie, demain c'est la Pologne. Donc c'est non.
La Constitution, elle est juste bien, c'est pour la paix. Mais pour le reste, on décline complètement.
Vous l'avez un peu lu, la Constitution?
Oui, je l'ai lu quand même, hein. Moi, il n'y a qu'une chose qui m'intéresse, c'est la paix, bien sûr, mais pour le reste, je suis pas d'accord.
Et vous savez pourquoi vous allez voter, vous?
Non. Déjà pour la délocalisation, on ne peut pas dire oui à tout ce que le gouvernement nous promet pour voter oui, c'est pas possible. Non.
De toute façon, on reviendra bientôt, on travaillera 40-45 heures comme ils font en Angleterre. Les vieux devront travailler parce qu'on n'aura pas assez de retraite. Enfin, tout ce qui est à l'étranger, ça va venir en France, un petit peu à la fois. C'est sûr et certain.
Madame Bourlard?
Au nom de l'Europe, il y a quelques années, nous, le travail de nuit des femmes dans l'habillement était interdit. Et au niveau européen, au Parlement européen, ils ont voté le travail de nuit des femmes dans l'habillement. Alors, ça, c'est pas un recul? Alors nous, parce qu'au niveau de l'Europe, ils l'ont voté, en France, dans l'habillement, on a le droit de travailler la nuit. C'est pas scandaleux, ça? Il y a nos amis, la droite et les socialistes, ont voté pour le droit au travail des femmes la nuit de l'habillement. Attendez.
Et donc vous savez pas ce que vous allez voter, ou bien...
Ah non, mais je ne vote pas, parce que je suis de nationalité étrangère, portugaise.
Vous êtes rentré chez Biedermann, et donc ça fait depuis 69, ça fait combien? Ça fait
36
ans. Ça fait combien?
36 ans. Et j'aurais bien voulu faire mes 40 ans en France. C'est vrai que...
Vous dites que vous auriez bien voulu parce que vous pensez que vous n'allez pas pouvoir?
Eh ben, à l'allure qu'on va, sauf au chômage, que je finirai mes années. Oui, l'usine s'est prévue pour que ça fermerait en 2007. J'avais 38 ans, ça va jusque-là, mais c'est pas encore sûr que nous irons jusque-là.
Et donc vous qui êtes d'origine portugaise, Gloria, qui êtes venue travailler en France, comment vous entendez tout ce débat sur à la fois les travailleurs polonais qui pourraient venir en France? Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça?
Je pense que, comme mes collègues, que c'est vrai, ils sont dans leur pays, c'est normal que le travail leur vient quand même d'abord à eux. Que...
Moi, personnellement, je suis pas contre de donner du travail à l'étranger, mais alors qu'on ne met pas les propres Français, ça travaille, quoi. Il faut aussi nous aider, hein. Mais je ne suis pas contre un étranger qui vient travailler en France. Hein.
Bon, mais...
Surtout celui qui se naturalise et tout. C'est quand même, s'il est venu, c'est qu'il a admiré notre pays. Mais les Français doivent aussi avoir du travail. Hein.
Les étrangers qui viennent, on ne doit pas profiter d'eux, les payer au ras des pâquerettes. Ils doivent avoir un salaire comme nous. C'est pas, les patrons sont en train d'en foutre plein les poches pour en prenant des main-d'œuvre étrangères.
Donc, vous, si vous aviez la nationalité française, vous voteriez?
Non.
Pardon?
J'aurais voté non.
Marie.
Moi c'est non.
Ah ouais, moi c'est non.
Non,
je suis non catégorie.
Moi c'est non catégorie.
Donc là on a entendu les salariés de l'entreprise ECCE, où il y a le risque que la production Kenzo parte vers les pays de l'Est. Elles déclarent que de toute façon elles vont se battre, y compris elles se sont déjà battues lors du premier plan licenciement suite au départ de Yves Saint Laurent, où elles ont obtenu des plans de formation, ce genre de choses-là. Mais finalement, on a le sentiment que même ces luttes, ça n'agit pas sur les causes, ça agit en partie sur les conséquences, mais pas tellement sur les causes.
Mais le drame, c'est que c'est vrai. C'est pas là que ça se joue. J'essaye de promouvoir une différence entre ce qu'on pourrait appeler la politique principale et la politique secondaire, ou la politique majeure, la politique mineure, ou je sais pas, voilà, la grande politique et la politique résiduelle. Alors, qu'est-ce que c'est la grande politique? La grande politique, c'est celle qui fixe les structures principales macroéconomiques à l'intérieur desquelles le jeu économique et social va se développer. Une fois que ces grandes structures ont été posées, ont été configurées, alors presque la totalité de la dynamique économique et sociale s'en trouve déterminée. Qu'est-ce que c'est que ces grandes structures? C'est la concurrence généralisée, c'est-à-dire la déréglementation des marchés de biens et de services. Première grande structure. Deuxième grande structure, la libre circulation des capitaux et la libéralisation financière. Troisième grande structure, la monnaie unique. Une fois que ceci a été posé, les marges de manœuvre qui restent à la politique sont quasiment risibles. Et là, on rentre dans le champ de ce que j'appelle la politique résiduelle. D'une certaine manière, on pourrait dire que la politique résiduelle et les alternances qui vont avec, ça porte sur la taille de la serpillière qu'on va passer, c'est-à-dire la grande politique, la politique principale, celle qu'on fait d'ailleurs en général hors la vue des citoyens, à l'OMC, à l'AMI, à la GCS, dans la construction européenne, énormément. Ces politiques principales, ces grandes contraintes structurelles, entraînent des dégâts économiques et sociaux, bon, j'ai pas la peine de m'étendre là-dessus, hein, qui sont connus de tout le monde. Et la politique secondaire, la politique résiduelle, passe derrière avec le seau et le balai pour éponger les dégâts.
C'est l'infirmerie un peu.
C'est l'infirmerie. Alors voilà, UMP, petite serpillière, Parti Socialiste, grande serpillière. Quant au cas du Parti Socialiste, là je m'interroge. D'un point de vue méthodologique en sciences sociales, recourir trop vite aux hypothèses de bêtises n'est pas une bonne chose. En même temps, il faut pas complètement les exclure non plus, hein, parce que là, c'est vraiment, c'est un cas presque type. On entend à longueur de journée des déclarations des proclamations sur le désir ardent de lutter contre les inégalités, mais jamais, à aucun moment, on ne s'interroge sur les véritables causes des inégalités. C'est-à-dire, on veut bien lutter contre les inégalités, mais jamais on ne se propose de lutter contre ce qui produit et reproduit sans cesse ces inégalités.
Vous voyez dans le traité constitutionnel, dans la construction, le mode de construction de l'Europe, l'une des causes de ces inégalités?
Je les y vois toutes. Je les y vois toutes parce que ces grandes contraintes structurelles, celles qui sont l'objet de la politique majeure et que j'ai rappelé tout à l'heure, elles sont toutes explicitement mentionnées dans le traité. Déréglementation concurrentielle, libéralisation financière, monnaie unique. C'est une triple tenaille. C'est-à-dire, une fois qu'on est pris là-dedans, les marges de d'abord, les effets s'en suivent de manière quasi mécanique. Donc ces grandes contraintes structurelles, elles sont répétées, affirmées et, comme le dirait une expression qu'on a beaucoup entendue, gravées dans le marbre du traité constitutionnel. Et alors, c'est ça qui est un petit peu dramatique, parce qu'il faut faire le lien entre ces choses qui sont très très lointaines et très très abstraites, hein, qui sont des objets de discussion pour macroéconomistes, d'une part, et d'autre part...
Ces choses très très abstraites, c'est la libre concurrence.
Absolument, c'est le travail des grandes...
L'indépendance de la banque centrale.
Et c'est la libéralisation financière. Il faut établir les connexions entre ces choses abstraites et lointaines, et d'autre part, le vécu des salariés, mais sur leur terrain d'entreprise, c'est-à-dire au niveau de leur plan social, etc.
Alors comment agir sur ces contraintes structurelles?
Ah mais alors là, c'est là que c'est formidable, parce que l'histoire ne nous ouvre pas souvent des fenêtres, elle ne nous sert pas très souvent des opportunités. Or, nous avons, miracolo, nous avons un débat référendaire qui précisément met en question ces grandes structures, et ceci pour la première fois depuis qu'elles ont été installées. Depuis 20 ans que nous vivons sous le régime de ces nouvelles contraintes, nous avons l'occasion de nous prononcer sur cette question. Et pour la première fois, le débat roule sur les vraies questions. Les vraies questions de structure, on ne parle que de ça. On ne parle que de la banque centrale indépendante, on ne parle que des contraintes liées à la monnaie unique, on ne parle que des contraintes liées à la déréglementation. Donc c'est pas comme en 2002, où la question sociale et économique, qui est vraiment importante en dernière analyse, s'était trouvée défigurée sous l'espèce de débat à la con sur l'insécurité, l'immigration, les sauvageons, etc. C'est que on revient à la véritable question. Alors là, attendez, là... Je veux dire, c'est une occasion en or de se prononcer. Si, comme je l'ai dit tout à l'heure, les vrais enjeux se situent au niveau de ces grandes contraintes, alors là, il faut saisir l'occasion de ce référendum. Il faut y aller. C'est, un débat de cette nature ne reviendra pas avant 2 décennies. Moi, je pense que c'est un scrutin à caractère historique que nous vivons. Parce que nous avons de nouveau droit à la parole pour poser les questions de la politique majeure, pour poser les questions de la politique principale. Et on sort de la politique résiduelle. Donc, il faut se précipiter.
Non.
Si le nom l'emporte,
oui.
Oui.
Oui. Oui ou non?
Du oui.
Du non.
Non, non.
Son nom, du oui.
Et voilà, merci à tous. Merci à Frédéric Lordon qu'on vient d'entendre. Merci à Marie-Hélène Bourlard, à Aline, à Edmond Vanik, à Christian Rossignol et aux salariés de ECCE. Merci à tous les élèves de la terminale L du lycée Alfred de Nobel à Clichy-sous-Bois, au professeur Germain et à Madame Le Breton, et merci à JBD. Les reporters étaient aujourd'hui Olivia Gesbert et François Ruffin. Le bouquin de Frédéric Lordon, c'est « La vertu sauvera le monde », raison d'agir 2003. À ne pas louper Elfe Pompe Afrique, une pièce de Nicolas Lambert, le vendredi 27, samedi 28 à 20h30 à Bordeaux, 16 rue Ferrer, à l'initiative de Survie Gironde. Merci à Monsieur Hier pour les extraits de films. Et voilà. Alors, aujourd'hui, exceptionnellement, le texte final, la dernière partie de l'entretien avec Frédéric Lordon, eh bien, vous pouvez la retrouver sur le site de France Inter, à la rubrique émission Là-bas, si j'y suis. Christophe Imbert et François Ruffin ont mis le texte en ligne sous le titre Miracolo, avec un point d'exclamation. Technique aujourd'hui, Jean-Philippe Jeanne et Alain Arnstam. L'équipe de Là-bas, si j'y suis, c'est Antoine Chao, Yann Chouquet, Pascal Le, Pascariello et Christophe Imbert, le numéro du répondeur. On attend beaucoup de messages, évidemment, pour lundi. C'est le 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Sautez sur votre téléphone dès dimanche soir, évidemment. Et le mail de Là-bas, si j'y suis, c'est daniel.mermet@radiofrance.com. Dans 20 secondes de pub, vous retrouvez Charivari avec Frédéric Bonneau. On se retrouve sinon lundi. Bonne fin de semaine à tous. Salut.
Je croyais t'avoir dit de servir le champagne dans les ballons bien fins, toi.
J'en ai pas de ballons bien fins, ça manque.
Musique.